Vous avez tous des formations en musique. Et est-ce que c'était ça que vous vouliez faire dans la vie, ce genre de projet-là, ou vous en alliez complètement ailleurs?
Ben, personnellement, c'était vraiment un rêve utopique. J'avais l'impression que c'était un rêve que je croyais inatteignable. J'avais vraiment envie de faire de la musique comme gagne-pain, mais j'y croyais pas vraiment.
Moi, j'ai une anecdote que je raconte peu souvent. Mais quand même, je vous ai appris ça cette année que moi, en secondaire 5, je suis parti avec l'ensemble vocal de mon école en mini-tournée, pas de budget, dans un autobus brun. Et puis, je me suis ramassé à Terre-Neuve dans un festival choral. Puis, j'ai vu live le groupe suédois de jazz vocal absolument extraordinaire, The Real Group. Puis, je me souviens que ma réflexion de l'époque, c'était « Ah, c'est donc bien cool que ce type de band-là puisse avoir une carrière puis puisse faire ça professionnellement en Europe. C'est-tu plate que ça se puisse pas au Québec. » C'est dommage, hein? Mais bon, quand... Puis la vie a continué, le temps a passé, puis une année, ben, les opportunités se sont présentées, puis ben, calvaire, je fais ça dans la vie.
On va censurer ce mot.
On est live, c'est dur de mettre des
Oui, effectivement.
J'ai du calvaire, c'est pas super.
Personnellement, moi, ça a été, ça a toujours été une passion. J'avais un autre groupe a cappella avant Quartz, avec lequel on a fait la première partie d'ailleurs de Grégory Charles ou le Festival de Jazz de Montréal et tout ça. Mais ça faisait partie de mon cursus académique quand j'étais au cégep. C'était pas vraiment une job. Puis je voyais pas ça non plus comme une job. Je voyais ça comme un apprentissage de placer les harmonies vocales. C'est vraiment un très bon apprentissage. Et après ça, je me suis dirigé vers l'Université d'Ottawa où j'ai fait ma maîtrise en chant classique. Donc, ce qui s'en venait pour moi, ce à quoi je rêvais, c'était la carrière à l'opéra, de parcourir le monde dans les grosses productions de musique classique, dans les gros opéras, dans les gros théâtres et tout ça. Mais parallèlement à ça, je suivais Quartz, qui était c'est des amis d'enfance, donc je les suivais bien sûr sur Facebook, je voyais toutes les aventures et je rêvais secrètement qu'il y ait une scission à l'intérieur du groupe et que je puisse prendre la place d'un des gars parce que je trouvais ça vraiment épatant ce qu'ils réussissaient à faire. Ça a l'air tellement c'est drôle parce que moi j'ai la vision, bon, maintenant je fais partie de Quartz, je sais comment que ça fonctionne et tout ça, mais j'ai eu la partie, j'étais fan de Quartz avant et je trouvais ça épatant de voir à quel point ça avait l'air facile, mais en tant que musicien de regarder tout le travail qu'il y avait en arrière de ça et de comprendre que c'est complètement éclaté et c'est déjanté comme système, comme façon de procéder pour de la musique. Donc non, c'était pas une ambition, mais parallèlement à toute ma carrière académique, c'est quasiment une carrière, j'ai fait 10 ans de post-secondaire en musique, il y avait ça qui a toujours été là, puis maintenant que j'en fais partie, mais je me rends compte que c'est ce que je voulais faire dans la vie.
Est-ce que c'était toujours la voie, l'avant-plan? Ou vous avez tous essayé je sais que toi t'as essayé beaucoup d'instruments avant.
Moi, j'ai échoué lamentablement à plusieurs instruments. Mais François, lui, a eu une super belle carrière d'instrumentiste.
Ouais, moi j'ai réussi avec ma carrière de
bon.
Non, moi c'est j'ai le parcours je pense que le plus divergent. Les trois gars ont étudié en chant classique, donc c'est quand même pas très loin de faire du chant pop, la technique vocale, il y a des affaires qui se recoupent quand même. Moi j'ai fait mes études en orgue à tuyaux au conservatoire, et puis après ça j'ai fait mes études en écriture musicale, donc ça aide beaucoup pour les arrangements au sein du groupe, mais j'ai aussi fait des études en direction d'orchestre, donc ça avait vraiment rien à voir avec Quartz, mais je faisais tout le temps Quartz à côté. Et puis je pense que ça a tout le temps été la priorité A, Quartz, la priorité B, tout le reste. Donc, il y a encore quelques années, moi, je dirigeais à l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières avec Jacques Lacombe, j'étais son assistant, et puis à un moment donné, j'ai fait « Non, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. » Même si c'est super le fun, même si c'est j'adore la musique classique, j'en écoute beaucoup, c'est pas ça que je voulais faire dans la vie, je voulais faire Quartz, donc je me suis lancé seulement que dans Quartz quand il a fallu faire un choix, là.
Mais François a vraiment, justement, fait ses classes de chant à travers Quartz, puis je pense que, pour être là depuis le début, justement...
Ça s'en vient, ouais.
Non, justement, j'allais dire... on a vraiment vu le cheminement vocal. Non, c'est arrivé, c'est ça que je veux dire. Je pense que François a réellement réussi à rattraper justement le manque académique vocal. De toute façon, il y avait déjà toute la connaissance sur le plan musical, donc ça lui donnait vraiment toujours une conscience de ce qu'il faisait. Puis justement, c'est comme s'il avait fait un stage, puis maintenant l'expérience équivaut au diplôme. C'est ça, exactement. Oui.
Absolument.
On parlait tout à l'heure de l'appui des gens de la région de Trois-Rivières, mais quand on décide, jeune, qu'on veut faire ça dans la vie, comment ils réagissent les proches, la famille, est-ce qu'ils sont derrière nous?
Pas ça dépend à qui, je pense.
Ça dépend à qui, ouais. Effectivement. Moi, mes parents, ça... au départ, ils étaient plus ou moins d'accord avec l'idée de faire ça. Ils voyaient... Je pense qu'il y avait aussi... Il y a eu des musiciens dans ma famille, puis il y a toutes sortes de difficultés quand même avec ce genre de choix. Et donc, il y avait certaines craintes, mais ils m'ont toujours appuyé quand même, à contre-cœur au début, maintenant totalement, parce qu'ils ont vu le travail puis où ça a mené. Mais c'est ça, tu sais, des parents, comment ça veut s'assurer que le mieux pour ses enfants. Donc, c'était vraiment juste d'être certain que ça allait bien fonctionner pour moi.
Moi, ma mère, ça a été l'inverse. Ma mère est musicienne professionnelle, donc ben, elle sait ce que ça implique comme sacrifice, tout ça. Mais elle était contente de voir que je m'en allais plus en pop qu'en orgatuyau, qui est un domaine musical qui est un peu moins populaire. Surtout qu'elle déteste l'orgue.
Donc, c'est vrai, je savais pas.
Oh, elle déteste l'orgue. Ah, oui. Là. Elle disait, c'est bien parce que c'est mon fils que je viens voir tes concerts, mais pas tout, s'il te plaît. Là. Puis après ça, elle est devenue directrice du conservatoire. Puis là, elle est pognée pour juger des examens d'orgue. Donc, elle est pognée pour aller dans les églises écouter de l'orgue. Puis elle aime vraiment
pas ça. Karma.
Donc, c'est le karma, c'est ça. Donc, mais en même temps, quand j'ai décidé de m'en aller en musique, elle me disait, t'es sûr? Parce que moi, je l'ai faite. Puis, tu sais, tu feras pas de l'argent quand tu sors de l'université. Il faut que tu la fasses toi-même, ta carrière. Il n'y a pas une compagnie qui va t'engager. En tout cas, c'est très, très, très rare. Surtout au Québec. En Europe, il y a moyen quand même de faire des auditions dans les orchestres, d'être pris, puis d'avoir un job à temps plein pour la vie. Mais au Québec, il y a l'OSM, puis l'OSQ un peu, mais on peut pas faire que l'OSQ, donc c'est plus difficile au Québec de faire de la musique, donc mais c'est la passion. C'est une vocation, je dirais.
Et c'est une vie d'éternel pigiste.
Musicien.
Nous, là-dessus, on est l'exception qui confirme la règle. Maintenant, Quartz s'est rendu une job à temps plein et and some more. Puis, on est excessivement chanceux et reconnaissant envers les gens de nous soutenir là-dedans. Mais c'est parti à petite échelle, puis tranquillement, pas vite. Premier album, puis tournée de spectacle.
Mais je le répète souvent, c'est 5% des élèves qui ont un diplôme en musique qui vont réussir à gagner leur vie en faisant de la musique uniquement. Donc 5%, c'est très très peu, et on a énormément de talents ici au Québec, au Canada, dans nos universités. C'est bourré de talents. C'est pas par manque de talents si les gens réussissent pas à gagner leur vie après ça. C'est juste le manque d'opportunités. C'est ça. Comme Fadoul disait, on est extrêmement reconnaissant de pouvoir faire ce métier-là. Ça nous touche beaucoup de voir le support des gens. Puis on parlait du support de Trois-Rivières, mais c'est le support à travers la province au complet. Et plus, on a des gens. Je pense à Miramichi parce qu'on arrive de là, mais
chanteur pour Miramichi.
Le Nouveau-Brunswick, il y en a eu jusqu'à Vancouver, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est la petite île, la commune française qui est ici, installée sur l'Atlantique, et avec qui on a une super belle relation. Donc, ça s'est fait sentir de partout, complètement partout. Donc, de sentir ce soutien-là, c'est très, très, très important pour nous. Puis, on n'oublie pas d'où on vient, puis on le sait, la chance qu'on a de faire ce métier-là.
Rapidement, dans le parcours, vous avez été associé à l'humour. Vous avez fait des premières parties à Juste pour rire. Vous avez monté sur les planches du Grand Rire de Québec en première partie de Whoopi Goldberg, si je me trompe pas. Comment c'est arrivé l'humour dans le groupe? Est-ce que c'était déjà là au départ?
Je dirais Serge Postigo. ça a été pas mal notre lien avec...
Parce qu'au départ, c'était quatre portes de prison.
Mais en fait, c'est vrai.
Oui, c'est ça.
C'est vrai, il y a eu, comme François disait, il y a eu cette évolution-là de passer de... Mais d'avoir envie de se lousser la cravate finalement, puis de faire un peu de blagues, et finalement de dire on va faire sérieusement des blagues, donc de dire on va travailler sur la façon de puncher. Puis c'est tel, on a énormément d'admiration pour tous les gens qui font de l'humour, que ce soit des humoristes professionnels ou même ceux qui font des blagues une fois de temps en temps dans leur métier. Non, c'est vraiment
c'est dur.
Oui, c'est dur, et voilà.
On est dur entre nous sur l'humour aussi. Quand il y en a un dans l'auto qui fait une blague un peu poche, il se le fait dire. On a des standards de qualité. Il y a un moment de silence, puis on prend le temps de penser à ce qu'on a fait.